Nous allons ensemble ouvrir la Bible. J'aimerais juste lire un verset pour l'instant, on en lira d'autres après, dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Verset 31. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous montre quelle était la nature, la caractéristique de l'Église dans ses premiers temps en un verset. Nous avons là un petit peu tout résumé. L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes là encore dans les tout premiers temps de l'Église. L'Église n'a pas encore atteint, ou du moins n'a pas encore commencé à ses missions jusqu'aux extrémités de la terre. Pour l'instant, elle est juste sur le territoire d'Israël, dans la Judée. Elle est montée un peu plus au nord, dans la Galilée, et puis un peu au milieu, la Samarie. Mais elle n'a pas encore été plus loin que cela. L'apôtre Paul vient juste de se convertir, c'est écrit au début du chapitre 9, et il n'a pas encore commencé ses missions vers l'Europe, le sud de l'Europe. Et non seulement lui, bien sûr, mais d'autres aussi, d'autres apôtres vont évangéliser d'autres régions du monde. Et donc l'Évangile progresse, l'Église aussi, il nous est dit qu'elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit, elle prend de l'ampleur, l'Église va de l'avant. Il y a quatre points que nous allons relever ce matin dans ce verset. Tout d'abord, nous allons parler de la paix. L'Église était en paix. Amen. C'est important ça, la paix. L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Et puis le deuxième point, c'est qu'elle s'édifiait. L'Église s'édifiait. Et puis l'Église aussi, troisième point, l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Et enfin, comme une logique, j'allais dire, une vie normale d'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. On pourrait faire un dimanche sur chacun des quatre points, tellement cela est important, mais on va essayer de concentrer tout ce matin. L'Église était en paix. Il y a deux directions, en tout cas en ce qui concerne la paix, il y a une direction vers l'extérieur et puis aussi à l'intérieur. L'Église était en paix, j'allais dire, par rapport à l'extérieur, car l'apôtre Paul, appelé Saul de Tarse, vient de se convertir. Le principal instigateur des persécutions et vient de se convertir. Donc les persécutions contre l'Église se marquent un coup de frein. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'arrêter, bien au contraire, elles vont reprendre. Mais pour un temps, l'Église bénéficie d'une certaine paix parce que le meneur des persécutions vient de se convertir. Elles vont reprendre plus tard, mais en tout cas, pendant ce laps de temps, l'Église va pouvoir profiter d'un temps de liberté pour pouvoir aussi faire ce qu'elle a à faire en toute quiétude, sans être obligée de se cacher, ce qui peut aussi freiner certaines choses. Si Satan fait tout pour empêcher les églises de s'implanter, il va mettre des bâtons dans les roues, nous prions bien sûr que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais le diable, lui aussi, il fait tout pour que ces ouvriers-là ne s'installent pas, pour que ces ouvriers-là n'entrent pas en l'œuvre, pour que des églises ne puissent pas voir le jour. Ça, c'est une action qu'il fait. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il fait tout pour empêcher les églises de s'implanter, il fera tout aussi pour empêcher les églises de se développer, de s'affermir. Et pour ce faire, il va empêcher le suivi des églises. Il y a une église assez... qui nous donne un exemple de ce que je viens de dire, c'est l'église que Paul a ouverte à Thessalonique. Il a ouvert une église, il est resté que très peu de temps dans cette ville à cause des persécutions. Il a été obligé de partir rapidement de cette ville de Thessalonique. Néanmoins, pendant ce très petit laps de temps qu'il est resté, une église a pu voir le jour. Cette église est née dans la souffrance. On peut aller dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, nous lisons verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » L'apôtre Paul est allé en Macédoine. On sait que c'est par une révélation qu'il est allé en Macédoine. Il est arrivé à la ville de Philippe et puis après il est allé à Thessalonique et là il a connu les persécutions. Mais néanmoins, il dit, vous avez reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Certains ont quand même reçu la parole de Dieu malgré l'opposition qui était là, malgré les risques, malgré les dangers, et ils l'ont reçu avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia, j'aime bien ça. Hein, il y a les souffrances d'un côté, la persécution, mais ils reçoivent quand même la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. Paul a été obligé de partir précipitamment de cette ville de Thessalonique, et il n'a pas pu tout enseigner. Il est resté quelques jours seulement, il n'a pas pu enseigner toute la doctrine. Aussi a-t-il le projet de revenir dans cette ville, au chapitre 3, verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Amen. Paul avait le désir, il en faisait un sujet de prière nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre d'aller vous voir, il dira pourquoi, afin de compléter ce qui manque à votre foi. Et on voit, en lisant ces deux épîtres de Paul à Thessalonique, qu'il manquait certaines choses dans la foi des Thessaloniciens, parce que Paul n'avait pas pu enseigner toutes ces choses. Aussi, il voulait un petit peu continuer ce travail de suivi qui avait été un petit peu tronqué, afin d'affermir leur cœur. Et il priait pour cela, parce que l'apôtre Paul avait essayé d'y retourner, mais il en avait été empêché. Nous lisons au chapitre 2, verset 18. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais, lisons bien, Satan nous en a empêchés. » Comprenez ? « Satan nous en a empêchés. » Si je disais tout à l'heure que Satan fait tout pour empêcher l'implantation d'églises, il fait tout aussi pour que les églises soient suivies normalement afin qu'elles ne s'affermissent pas dans la foi, afin que ces églises deviennent fragiles. Et l'apôtre Paul a essayé d'y retourner, même deux fois il a fait cette tentative, mais à chaque fois il ne pouvait pas y retourner. Satan lui mettait des bâtons dans les roues, j'allais dire, il l'empêchait d'y retourner. Aussi l'apôtre Paul a-t-il envoyé Timothée au chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. C'est important ce que nous venons de dire. L'apôtre Paul a été empêché de retourner à Thessalonique pour continuer à enseigner et affermir cette église. Aussi, il est tellement impatient d'y retourner, lui, il ne peut pas, qu'il va envoyer Timothée continuer, j'allais dire, ce travail. Et il dira la raison, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ça serait en vain, en effet, d'implanter une église et puis quelque temps après, elle est par terre, il n'y a plus rien. Tout le monde est dispersé, tout le monde s'est égaré, ce serait un travail en vain. Aussi, l'apôtre Paul a à cœur de suivre cette église, a à cœur de suivre cette église. Il y a une image dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Proverbes. Vous savez, la particularité de l'autruche, c'est qu'elle manque un petit peu d'intelligence, elle manque un peu de jugeote. C'est que oui, elle va pondre des œufs, ils sont beaux ces œufs, hein, aux autruches, hein, c'est pas des œufs de poule. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les laisser à terre. Et elle va pas en prendre soin, n'importe qui, n'importe quelle autre bête peut piétiner son œuf. Je crois que là, nous avons une image concernant l'Église. Oui, l'Église, nous prions pour que des églises s'implantent, mais prions aussi pour que ces églises puissent progresser, pour que ces églises soient affermies, pour que ces églises puissent être suivies. Et Satan va tout faire pour empêcher ça. Aussi, nous prions. Nous prions pour que l'Église puisse être en paix afin de se développer normalement. Une particularité qu'il y a parfois dans des pays où il n'y a pas la liberté pour les églises, c'est que si ils arrivent par différents moyens à évangéliser, parfois même souvent, il y a un problème quant à la stabilité, quant à l'affermissement de ces croyants qui ne peuvent pas bénéficier d'un enseignement et donc ils deviennent fragiles. Ils deviennent fragiles. Aussi, nous prions. Nous prions pour que ces églises puissent connaître un temps de paix. L'apôtre Paul dira à Timothée de prier pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous gouvernent. Vous connaissez ce texte dans 1 Timothée chapitre 2. Et il donne la raison. Il donne la raison. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Une vie paisible et tranquille. Prions pour les autorités de notre pays, prions pour les autorités des autres pays, afin que l'Église puisse jouir d'une vie paisible et tranquille et qu'elle puisse avoir une vie normale, afin de s'épanouir. Donc l'Église était en paix. Il y a une paix extérieure, mais bien sûr, et ça c'était peut-être encore plus important, il y a une paix intérieure que nous devons rechercher. Il s'en est fallu de peu pour cette première Église que des troubles viennent à l'intérieur perturber sa vie normale. Juste un petit peu, quelque temps auparavant, nous avons l'épisode de Actes chapitre 6. Que s'est-il passé dans l'Église? Des murmures. Des murmures. Les apôtres ne pouvaient pas tout faire et tout, j'allais dire, reposait un petit peu sur eux. Aussi, ne pouvant pas tout faire, ils avaient établi certaines priorités qui étaient basées malheureusement sur des critères, j'allais dire, allez, disons-le, ratios. Et cela avait entraîné des murmures parce que certaines personnes étaient négligées et dans la distribution qui était faite. Aussi, dans la sagesse que Dieu leur a donnée, ont-ils demandé à l'Église de choisir parmi eux sept frères qui seraient chargés de cette responsabilité. Vous voyez, ils ont fait ce qui était sage et cela a préservé la paix à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. S'ils n'avaient pas réglé ça, si ce problème était resté comme cela, ça aurait dégénéré peut-être qu'il y aurait eu une division déjà au sein de l'Église entre, d'un côté, les croyants qui étaient hébreux et ceux qui étaient ce qu'on appelait les hellénistes. Les hellénistes. Donc il y aurait eu probablement une division qui se serait opérée à ce moment-là. La paix intérieure de l'Église a un grand prix. Et nous voulons tout faire pour contribuer à cette paix intérieure. Dans Romains chapitre 14, verset 17, jusqu'à 19, on a lu ce verset il n'y a pas si longtemps, mais on va le relire. Romains 14, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. À la paix à l'intérieur. Comment voulons-nous qu'une église puisse se développer si elle n'a pas une paix intérieure ? Si elle n'a pas une paix intérieure. Ça, c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. La paix. Alléluia. Non pas une paix comme le monde peut connaître, mais une paix qui est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ, une paix qui vient de ce fruit de l'Esprit. Cela passe par, bien sûr, le Saint-Esprit qui nous communique cette sagesse, cet amour et cette force, par le fait de régler certains problèmes qui sont là, comme dans Acte 6, par la discipline aussi de l'Église, nécessaire à la vie de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, l'apôtre Paul donne une certaine discipline concernant les dons spirituels. Et il dira aussi qu'il en soit ainsi parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et qu'est-ce qu'il rajoute après ? Est-ce qu'il dit un Dieu d'ordre ? Alors bien sûr, Dieu est un Dieu d'ordre, mais de paix. Comprenez que la discipline est importante parce qu'elle établit aussi une certaine paix dans l'Église. On n'aime pas parler de discipline, ça fait pas, c'est pas toujours agréable, en tout cas aussi d'en parler, et pas toujours agréable à appliquer, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'Église n'est pas un corps, comme un mollusque, il y a une ossature, il y a une structure qui la tient, et heureusement, que Dieu donc nous donne toute sa sagesse afin que nous puissions connaître un temps de paix qui est là au sein de l'Église, favorable à l'épanouissement de l'Église. Deuxième point, dans Actes 9, 31, on voit que l'Église s'édifie. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. J'aimerais juste dire certaines choses, rajouter certaines choses. Cette Église, elle s'édifiait. Cette édification n'est pas simplement une croissance numérique, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais l'Église s'édifie et cette édification, elle vient et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de chercher à s'édifier. Imaginons ensemble si seulement un seul d'entre nous, dans l'Église, s'édifiait et que les autres ne recherchaient pas à s'édifier. L'Église ne serait pas édifiée, tout simplement. Mais c'est la responsabilité de chacun de nous de chercher à s'édifier. Chaque membre de l'Église doit chercher à s'édifier. Et le Seigneur a fait des dons à l'Église pour que cette Église s'édifie. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit que la barre est placée très haute, hein, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Dieu a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteur, docteur, chacun ayant, j'allais dire, sa sphère d'action avec les dons que Dieu leur a confiés. Et pour quelles raisons sont-ils donnés? Pour quelles raisons? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est important que nous puissions prier pour que Dieu fasse lever des ministères pour l'Église. Qu'il fasse lever des évangélistes, oui, on prie pour ça. Mais il nous faut prier aussi pour qu'il y ait des pasteurs, c'est-à-dire des bergers qui conduisent le troupeau, des docteurs qui enseignent l'Église, des apôtres aussi qui vont ouvrir et fonder des églises, des prophètes qui vont donner à l'Église une direction prophétique. Nous prions pour tout cela. Nous prions pour que le Seigneur envoie ses ouvriers, parce que l'Église en a besoin de ses ouvriers pour que l'Église puisse s'édifier. Elle a besoin de tous les ministères, de ces ministères que nous trouvons dans Éphésiens 4, ces ministères qui sont aussi internes à l'Église, comme les anciens, les diacres et tout cela. Nous avons besoin de ces hommes, nous avons besoin de tels ministères au sein de l'Église. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur, qu'il nous utilise les uns et les autres pour que l'Église soit édifiée. Nous savons aussi que les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église. C'est une grâce que Dieu fait à l'Église pour l'édification. Il est écrit au chapitre 14 des Corinthiens, verset 3, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels. » Est-ce que nous aspirons aux dons spirituels? C'est important, les dons spirituels. « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » 1 Corinthiens 14, verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. Nous voulons aspirer aux dons de l'Esprit, à tous les dons de l'Esprit. Alors, on connaît les 9 dons de l'Esprit. On a l'habitude de les citer. Dons des guérisons, don de la foi, discernement des esprits, la parole de connaissance, de sagesse, etc., etc. Et puis, certains sont moins connus, mais qui sont aussi cités par l'apôtre Paul, comme le don de secourir, par exemple, de gouverner. Et tous ces dons sont indispensables à l'Église et ils viennent de l'Esprit. Ils viennent de l'Esprit et nous aspirons à ces dons spirituel pour que l'Église en soit édifiée, non pas pour que l'homme soit élevé. Nous ne cherchons pas à exercer les dons de l'Esprit pour en retirer une certaine gloire personnelle, pour attirer les regards sur soi ou pour faire passer ses idées, mais pour que l'Église en soit édifiée. C'est ça le but du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. L'Église s'édifier par ses dons de l'Esprit, par ses ministères, l'Église s'édifier par la parole de Dieu, d'où l'importance de l'enseignement, d'où l'importance de la formation. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul à Timothée ainsi que de Tite, il leur donne des recommandations concernant leur ministère pour l'Église et ils donnent des recommandations pour les couples, pour les enfants, pour les personnes âgées. Il y en a pour tout le monde dans la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Pour que chacun puisse s'affermir dans la foi. S'affermir dans la foi. Il est important que l'Église puisse enseigner ceux que Dieu lui confie, les enfants, les jeunes, les couples, les familles, les personnes âgées. Il est important que chacun puisse être enseigné et formé. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'Église s'édifiait et l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Il est dit dans Actes 9, verset 31, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Elle n'est pas seulement dans la crainte du Seigneur, mais il est précisé qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une progression. L'Église va de l'avant, c'est normal. L'Église va de l'avant, mais elle va de l'avant dans la crainte du Seigneur. Elle ne progresse pas sans garde-fou. Ouais, sur les autoroutes, il y a des glissières de sécurité. C'est que ça a son utilité. Et la crainte du Seigneur est comme ces glissières de sécurité. Elle nous canalise. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Il faut dire que peu de temps avant, il s'est passé l'épisode avec Ananias et Saphira. C'était encore certainement bien présent dans les mémoires. Imaginons ensemble si ça nous arrivait ici à l'Église. Imaginez que un homme, à cause du mensonge, tombe raide. Puis, quelque temps après, c'est son épouse. Ça ferait quand même... Et dans Actes chapitre 5, verset 11, il est dit que la crainte s'emparait de tous. On peut comprendre. On peut comprendre. Donc c'est encore présent dans les mémoires. Et il y a cette crainte du Seigneur qui est là, ce profond respect pour le Seigneur. Et quand l'Église est ainsi animée, cela la préserve de bien des dérives. Mais quand l'Église n'est pas animée de cette crainte du Seigneur, les dérives ne tardent pas à arriver, malheureusement. Il peut y avoir beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme, mais s'il n'y a pas cette crainte du Seigneur, c'est presque sûr que l'Église va partir dans des travers. Sauf, bien sûr, si le Seigneur intervient d'une manière ou d'une autre. De toute manière, le Seigneur intervient. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. » Dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Une certaine crainte de Dieu était là. Ça veut dire quoi ce verset-là ? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est qu'à dire cette crainte de Dieu régit quelque part notre comportement vis-à-vis des autres. Notre relation vis-à-vis des autres. Je ne fais pas n'importe quoi vis-à-vis de mon frère, de ma sœur en la foi, non seulement parce que j'aime ce frère et j'aime cette sœur dans la foi, il nous faut être animés de cet amour, mais aussi parce que je sais que Dieu me voit, que Dieu m'entend et que Dieu est entre nous. Vous comprenez ? Dieu est entre nous. Et il connaît nos pensées, il connaît ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, il sait toutes choses. Et Dieu attache un grand prix au type de relation que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. L'Église marchait donc dans la crainte de Dieu. Nous avons un exemple d'églises qui n'ont pas marché dans la crainte de Dieu. Nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Dans certaines de ces églises, il y avait des dérives. Aussi, le Seigneur va reprendre ces églises pour les amener à la repentance. Pour les amener à la repentance. Notre quatrième point de ce matin, et pas des moindres, c'est que l'Église s'accroissait ou prenait de l'ampleur, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Si les Églises naissent par la puissance du Saint-Esprit, elles grandissent, elles s'accroissent par la même assistance. Nous voyons comment la première Église, celle de Jérusalem, a pu voir le jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une action puissante du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, on aimerait vivre ça. Hein ? Ah Seigneur, fais-nous grâce. Hein ? Au jour de la Pentecôte, cette Église est née par une action du Saint-Esprit. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, que certains ont appelé les Actes du Saint-Esprit, hein, on voit qu'il en a été de même. Tout au long de ce livre des Actes des Apôtres, vous enlevez tout ce que le Saint-Esprit fait dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a plus grand-chose qui reste. Hein. L'Église de Jérusalem est née par une action du Saint-Esprit. Quand on voit un peu plus loin, quelques années plus tard, à Éphèse, comment cette Église a vu le jour ? On le lit dans les Actes des Apôtres. Il y a eu une action puissante du Saint-Esprit. On a parlé de Thessalonique tout à l'heure. On l'a vu, l'apôtre Paul en parle. Il y a eu une action puissante du Saint-Esprit. Et nous pourrions allonger la liste de ce qui s'est passé. Les églises naissent par une action, par une action du Saint-Esprit. Ce qui se passe dans le cœur, la conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qui c'est qui convainc quelqu'un de péché ? Ce n'est pas, j'allais dire, l'orateur, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit. Aussi, nous prions pour que celui qui annonce la parole soit rempli du Saint-Esprit, qu'il ait l'onction du Saint-Esprit. Sur lui, dans son cœur, et aussi sur ceux qui reçoivent eh bien, la parole de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit qui convainc une personne de péché, c'est l'action du Saint-Esprit qui régénère une personne. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'Église s'accroissait donc par l'assistance du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, Suite aux menaces qu'ils ont eues dans Actes chapitre 4, verset 29. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont des menaces. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient le Seigneur. Ils prient le Seigneur pour qu'il étende sa main. Pour qu'il étende sa main. C'est ça que nous voulons rechercher. Si nous avons des difficultés, si nous sommes en face d'un blocage ici, il était de taille, c'est à cause des menaces. La première réaction que nous voulons avoir, c'est de nous tenir dans la prière. D'où l'importance des réunions de prière, frères et sœurs. L'Église a besoin de se tenir dans la prière. Nous avons besoin de nous tenir individuellement dans la prière, mais nous avons besoin de nous tenir mutuellement aussi, communément, dans la prière, ensemble dans la prière. Non seulement pour que Dieu envoie des ouvriers, mais aussi pour qu'il étende sa main. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Pour que le Seigneur étende sa main et qu'il se fasse ses miracles, ses guérisons, ses prodiges, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Église s'accroissait donc par l'assistance du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Oui, nous voulons prier pour qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance au milieu de nous. Mais une démonstration authentique. Authentique. Une démonstration authentique d'esprit et de puissance. Parce que la falsification dans ce domaine, hélas, existe aussi. Des contrefaçons existent aussi. Mais nous voulons prier pour que le Seigneur étende sa main au milieu de nous. Et pourquoi nous prions ? Pour que l'Église puisse s'accroître. Alléluia. Afin que la foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais en conclusion, non seulement en conclusion de ce message, mais en conclusion de notre parcours sur l'Église, on passera à un autre sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur l'Église, mais nous passerons à un autre thème, à un autre sujet dans quelques temps. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 6, j'ai déjà dit, il y a un parallèle, une analogie à faire entre le Seigneur, la relation du Seigneur avec l'Église et ce que nous voyons dans ce livre des Cantiques qui relate les relations d'un homme avec une femme. Et au chapitre 6, verset 4, tu es belle, mon ami, comme Tirsa. Tirsa était une ville importante en Israël, connue pour sa beauté. Agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sur leur bannière. Verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière, terrible ou imposante, selon les versions. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que l'Église, elle est belle. L'Église, elle est belle. Alléluia. Merci, Seigneur. Et l'Église, elle est agréable. Il y a la beauté. Et il y a le fait que l'Église soit agréable. Vous pouvez avoir une belle femme, mais qui est désagréable. Mais là, l'Église, elle est belle et elle est agréable. Il y fait bon vivre. Amen. Belle et agréable. Il y a rajouté quelque chose, mais terrible. Terrible. Et là, il y a une image d'une armée qui sont sous leurs étendards, leurs drapeaux, leurs bannières, mais terribles ou imposantes selon les versions. L'Église, elle est terrible. Elle est terrible pour l'ennemi. Elle est terrible pour les ténèbres. Elle est belle, agréable, mais qu'on ne s'y trompe pas. L'Église en impose. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Elle est terrible, l'Église. L'Église est terrible parce qu'on y trouve la puissance de Dieu, la vérité, c'est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est terrible parce que c'est un lieu de miracle. Amen. Et face à cette armée qui sont sous leur bannière, l'ennemi tremble. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église est tenue dans la main du Seigneur. Nous sommes sous la bannière du Seigneur. Alléluia, sous son étendard. L'Éternel est notre bannière. Un peu plus loin, il est dit dans ce même livre, « Sa bannière sur moi, c'est l'amour. » Quoi de plus fort que l'amour ? Amen. C'est sous ces étendards-là, sous ces bannières-là que nous sommes placés. Ce sont nos drapeaux, nos bannières. Nous sommes sous la protection du Seigneur. C'est ce qui fait que nous sommes terribles. Ne minimisons pas la puissance de l'Église, ne minimisons pas l'efficacité de l'Église. C'est vrai que nous sommes là dans ce lieu et peut-être qu'on pourrait se dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?» Mais nous sommes terribles, alléluia. Quand nous prions le mardi soir, il se passe quelque chose. Les ténèbres tremblent. L'Église est terrible. Lorsque l'Église proclame la parole de Dieu, les ténèbres tremblent. L'apôtre Paul dira qu'on peut renverser toute forteresse et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ton Église. Alléluia, qui est comme une forteresse. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui, eh bien, nous aide jour après jour. Tu tiens ton Église entre tes mains et personne ne pourra la ravir de ta main. Merci Seigneur Jésus. On va ensemble remercier notre Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour l'Église. Nous voulons vivre ce verset d'Actes 9, 31. Où l'Église était en paix, où l'Église s'édifiait, où elle marchait dans la crainte de Dieu et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est toi qui ajoutes les pierres à l'Église, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui ajoutes ces pierres. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait et te prions vraiment de nous aider, Seigneur. Nous aider, Seigneur, à rechercher ta face. Nous aider, Seigneur, dans ta sagesse. Nous communiquer les dons de l'Esprit, Seigneur. Tous les dons de l'Esprit. Pour que ton Église s'édifie, soit affermie. Faire lever des ministères, Seigneur. Nous prions pour cela. Pour que l'Église soit édifiée, affermie dans la foi. Te prions pour tout cela, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que rien ni personne ne pourra rien contre l'Église. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu as fait une alliance avec ton Église que tu ne rompras point. À toi soit toute la gloire. Même si nous ne savons pas toujours où nous allons, Seigneur, nous voulons te faire confiance, comme Abraham qui est parti sans savoir où y aller. Peut-être il y a des périodes, Seigneur, où nous sommes comme dans le brouillard, dans la brume, mais nous voulons continuer à avancer en regardant à toi. Ô, que ton nom soit ainsi glorifié dans le cœur de chacun, Seigneur. Dans le cœur de chacun, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen.